En étrange pays, Gilles Lapouge, bonjour. Notre voyage aujourd'hui, ce sera un voyage dans les mots, un voyage dans l'histoire, dans le passé, dans le présent, un voyage dans les familles. Et nous avons un premier de cordée pour nous aider à faire ce voyage, qui est parfois plus escarpé qu'on ne le pense d'ailleurs. Ce premier de cordée, c'est Jean-Louis Beaucarnot. Jean-Louis Beaucarnot qui est généalogiste et qui est un des généalogistes les plus connus, les plus sollicités aujourd'hui en France. La France elle-même étant une patrie, je crois, où la généalogie, la science généalogique est particulièrement brillante. Jean-Louis Beaucarnot, on le connaît évidemment, on le connaît dans cette émission aussi. Nous l'avons reçu, je crois, à deux reprises. En tout cas, la dernière fois, c'était un voyage dans l'histoire de France, c'est-à-dire une nouvelle manière, au fond, de raconter le passé, de raconter comment nos ancêtres vivaient. Mais cela, à travers ce fil de la généalogie, c'était parfaitement passionnant. Aujourd'hui, un nouveau livre de Jean-Louis Beaucarnot, publié chez Jean-Claude Lattès, « Laissez parler les noms », donc c'est parfaitement explicite, mais il ajoute un sous-titre « Nom de lieu », au pluriel, « Nom de lieu », prénom, nom de famille, nom de marque, et il y en a encore quelques autres, je crois. Et le titre comme le sous-titre, ils sont très importants. Laissez parler les noms, en effet, il faut qu'ils chantent et qu'ils parlent, les noms. Mais lorsque quelqu'un avise Jean-Louis Beaucarnot, en général, il lui dit « Ah, je suis content de vous voir, monsieur Beaucarnot, moi je m'appelle... je sais pas, Mathias, qu'est-ce que c'est que ma famille ?» Alors, c'est vrai que Jean-Louis Beaucarnot accomplit cet art-là, qui est très complexe, mais là, ça n'est pas seulement ça. C'est les noms de lieux, les prénoms, les noms de famille, les noms de marques, etc. Et tout ça étant d'ailleurs d'une certaine manière lié, hein, parce que je crois que c'est très important, après je vous laisse parler davantage, je crois que c'est très important de comprendre, en tout cas à travers les conversations que j'ai eues avec vous, c'est que trouver la généalogie et l'étymologie encore plus d'un nom de famille par exemple, ça n'est pas appuyer sur un bouton et l'étymologie va tomber. C'est une véritable, un voyage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une véritable enquête de Sherlock Holmes parfois, hein, dans les maquis du passé, des noms, etc.
Faire sa généalogie, oui, c'est une enquête de Sherlock Holmes. Rechercher une étymologie, c'est une recherche. L'enquête de Sherlock Holmes pour la généalogie est longue, lente, passionnante, elle ne s'arrête d'ailleurs jamais. La recherche pour un nom est très complexe. Je dirais d'ailleurs que plus je travaille sur l'étymologie d'un nom, moins j'ai l'impression de pouvoir affirmer et de comprendre, ou tout au moins de bien connaître, les problèmes des étymologies. Mmh. Et je crois que en progressant, on arrive à poser beaucoup de questions, mais pas forcément à apporter les réponses. Mais bon, c'est toujours un sens positif dans la recherche même, et la recherche pure, je crois, d'arriver à poser les questions, ce sont les bonnes.
Oui, et au début de votre livre, vous parlez du nom en général, donc de toutes les applications éventuelles du nom, en partant du plus noble d'ailleurs, qui est le nom de Dieu. Et qui est le nom de Dieu qui presque, non pas n'existe pas, mais est plus ou moins occulté. Et dès qu'on s'approche du divin, du sacré, ou du très très haut, on s'aperçoit que le nom est un petit peu, soit complètement caché, soit plus compliqué à trouver.
Mais parce que le nom est volontairement protégé, souvent, parce que dans les sociétés primitives, il est considéré comme ayant un pouvoir, comme donnant un pouvoir. Connaître le nom de quelqu'un, c'est pouvoir exercer un pouvoir sur lui. Le citer à comparaître, c'est avoir effectivement une prise sur lui. Et vous aviez certaines sociétés primitives où les gens recevaient deux noms. Un nom réel qui était donc caché, voire quasiment symboliquement enfoui dans la terre, dans le sol, dans un puits, etc. Et puis le nom de tous les jours, qui était celui qu'ils affichaient. Or, seul le sorcier ou certaines personnes connaissaient le nom réel, sur lequel ils allaient pouvoir travailler lorsqu'ils allaient vouloir invoquer certaines puissances dans un but de guérison ou autre. Et puis, pour le reste du temps, on affichait et on vivait sous ce nom quotidien que l'on affichait, qui en principe ne laissait pas prise. Hein. Bon, c'est un peu, si vous voulez, aujourd'hui, en schématisant, vous avez votre identité, et puis vous avez des satellites de l'identité, par exemple l'immatriculation de votre voiture. Ouais. Bon, on vous voit, un policier vous voit faire un excès de vitesse, tant qu'il n'a que le numéro d'immatriculation de votre voiture, il ne peut pas grand-chose contre vous physiquement. Mmh. Mais à partir du moment où, dans son annuaire, il trouve que la voiture machin appartient à monsieur Attel, là, ça il a pouvoir pas. Sur ouais, vous. Ouais. Ben, c'est un petit peu, si vous voulez, ouais. le même phénomène. Ouais. Et de par cette logique, il n'était pas question de connaître le nom de Dieu. De Dieu ou des dieux, quelle que soit la mythologie ou quelle que soit la religion. Et le Dieu des chrétiens, lorsqu'il donne son nom à Moïse, donne un nom qui est vide, qui est un miroir, qui ne renvoie que lui-même, c'est le tétragramme.
C'est LVMH,
voilà.
C'est ça, oui.
Mais qui est « Je suis celui qui est ».
Oui.
C'est le nom miroir, il ne répond pas à cette question. Allah, il répond par une pirouette.
Allah, un autre système, hein. Il a 99 noms ou 100, je ne
il
sais pas.
Il a 100 noms.
Il a 100 noms, oui.
Oui, il a 100 noms et la façon dont un seul qui est le vrai, et la façon de connaître le vrai, que l'on ne peut écrire, je crois, qu'à l'encre de musc sur une peau de gazelle, je ne sais quoi. La seule façon de connaître le vrai est de brûler un Coran, et l'on dit que le dernier mot, que seul ce mot-là ne brûlera pas, ou bien de prendre un Coran dans les deux sens, c'est-à-dire à l'envers et à l'endroit, et à chaque fois d'éliminer un mot, et celui qui est tout à fait au milieu, qui ne sera pas éliminé, sera le nom de Dieu.
Oui, mais alors Jean-Louis Boucardon, il y a quelque chose, ce n'est pas exactement dans votre livre, je pense, mais c'est une réflexion que m'a proposé votre livre, c'est que, en définitive, cette absence de nom, cette dissolution du nom, ou ce masque donné au nom, fonctionne au plus haut et au plus bas, parce que celui qui n'a pas de nom, pas le Dieu. Le Dieu, on ne connaît pas son nom. Mais il y a aussi l'homme qui est déchu et qui n'a pas de nom. Vous citez, je crois, le cas de Marseille, par exemple, en 1792, comme les Marseillais n'avaient pas été gentils avec les révolutionnaires, Marseille n'avait plus de nom.
C'était la ville sans nom.
C'était la ville
dans
sans
les changements
nom.
De nom de la Révolution,
donc,
on a
donc c'est
enlevé
la même chose
tous
que
les...
le traitement du Dieu. C'est l'extrême dans les deux cas.
Oui, mais ne pas avoir de nom est la négation, enfin, ne pas donner de nom à quelqu'un est la négation de son existence.
Oui, c'est ça. Et vous avez un autre cas d'ailleurs, je ne sais pas si vous en parlez, c'est Ulysse, à la fin de son périple, eh bien, il s'appelle Personne.
Oui, avec le cyclope, c'est Personne.
Oui.
Non, c'est Personne, parce que je ne sais plus comment se dit Personne en grec, mais ce Personne grec intègre la négation.
Oui, c'est ça, oui. Hein? Ne, c'est un ne.
C'est personne ne, nerf, d'où, ouais. d'où la réponse au cyclope, personne ne m'a dit.
C'est ça.
Et en général, c'est mal traduit dans les traductions françaises courantes, on trouve personne m'a dit.
Oui, c'est ça. Bien, alors donc, ça, ce sont un petit peu des... C'est une espèce de portail pour avancer dans ce
oui,
livre.
Oui, parce que bon,
enquêtes.
Je ne suis quand même pas spécialiste des sociétés primitives, ni de la psychologie, ni de la psychanalyse. Je me pose des questions en tant que spécialiste de l'histoire du nom. Mais là aussi, je ne suis pas toujours celui qui peut apporter les réponses.
Ah, mais
j'aime bien...
Vous donnez un autre exemple qui est extraordinaire à propos des sociétés primitives. C'est, tout à l'heure, vous avez dit certains noms sont cachés, etc. Il y a aussi cette société primitive que vous signalez. Il y a un nom pour le jour et un nom pour la nuit.
Oui, ça procède parce qu'il y a les puissances diurnes et les puissances nocturnes.
C'est ça. Oui,
ça procède un petit peu du même problème.
C'est le même problème, c'est ça. Mais alors donc, nous entrons davantage dans l'histoire du nom et en commençant, nous avons vu Dieu déjà très rapidement, il y a les villes aussi. Hein.
Oui.
Alors, il y a les villes les plus anciennes, lesquelles c'est, on ne le sait pas. C'est
alors,
peut-être
les plus anciens noms propres sont des noms de lieux. Parce que forcément, à l'époque de la préhistoire, les hommes avaient des noms qu'ils s'étaient donnés, mais nous ne les connaissons pas, ne nous sont pas parvenus. Donc, parmi les noms qui nous sont parvenus, les plus anciens d'entre eux ne peuvent être que des noms de lieux, on le voit bien. Noms de lieux qui existaient, parce que n'importe quel peuple de la préhistoire avait ressenti le besoin de dénommer les repères qui étaient les siens, les limites du territoire de chasse, le territoire qu'il cultivait, etc., les montagnes, les fleuves, qui lui servaient un petit peu de limite. Donc, les plus anciens noms sont des noms de lieux, d'accord, mais je me suis posé la question, sans savoir si cette question était valable, vous allez penser que je passe mon temps à poser des questions, c'est vrai,
bien.
Mais en me disant, mais est-ce qu'on arriverait à trouver le plus ancien nom de lieu. Et quel serait-il ? Donc je suis parti sur la France en me disant, bon, est-ce que c'est un nom d'une toute bête commune ? Est-ce que c'est le nom d'une grande ville ? Puis très vite, j'ai réalisé que ça ne pouvait être que le nom d'une grande agglomération, parce que les villages ne sont nés qu'après. Donc, grande agglomération, est-ce que ce serait Paris ? Ben non, de l'évidence, c'est pas Paris, puisque Paris était Lutèce avant. Lutèce, dont l'étymologie se perd un petit peu dans la nuit des temps, elle donne lieu à pas mal de divergences, de discussions. Ça serait apparemment un mot gaulois qui désignerait le marécage, le lieu marécageux, ce qui est bien logique, en bordure de Seine. Rabelais était allé dire que ça venait de je ne sais plus quel mot grec qui désignait les blanches cuisses, les habitants
oui,
du
mais Rabelais, non, mais, Rabelais était un obsédé extraordinaire.
Il fallait bien que Rabelais soit fidèle à ses préoccupations et à sa, ses approches. Mais c'est toujours intéressant de le raconter un petit peu pour l'anecdote et pour sourire. Malgré évidemment toute la fidélité qu'on garde à Rabelais en tant qu'auteur, parce que c'est un auteur extraordinaire.
Génial.
Bon, donc, ça n'est pas Lutèce. Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que ce serait Lyon, ville, Lugdunum, gallo-romaine, etc. Non plus. Et tout de suite, c'est Marseille qui s'impose. Marseille fondée par les Phocéens du côté du 6e ou du 7e siècle avant Jésus-Christ, dont on connaît le nom que les Phocéens lui ont donné, mais dont on ne connaît pas l'étymologie du nom. Marseille, c'est là aussi un écueil complet. Par contre, c'est Marsalia, Marsélia, etc., d'où toute une évolution qui donne notre Marseille d'aujourd'hui. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres noms plus anciens ? Et on me dira, mais Cro-Magnon, Lascaux, etc. Non. Ces noms de lieux-là n'étaient pas ceux. C'est nous qui les avons donnés. Enfin, ce sont nos ancêtres, mais pas les ancêtres qui vivaient au temps des cavernes qui les ont donnés. Ceux-là, comment appelaient-ils ces lieux ? Nul ne le sait. Ce sont nos ancêtres du 9e, 10e, 11e ou 12e siècle qui ont appelé Lascaux, Lascaux et Cro-Magnon, Cro-Magnon. Donc là, Marseille n'est pas battue et apparemment, Marseille, en Europe de l'Ouest, est vraiment un des plus vieux noms.
Il y a Antipolis à côté de Marseille, c'est la même époque.
C'est complètement Antipolis, c'était la ville d'en face, hein,
oui,
par ça. Rapport à Marseille.
Ouais,
c'est postérieur.
Oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr.
Logiquement.
Oui. Il y en a d'autres quand même. Vous citez, je ne sais pas si elles sont plus vieilles, je pense, en tout cas, c'est Jérusalem et Babylone, par exemple.
Oui, mais on n'est plus en Europe de l'Ouest.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est manifestement, c'est beaucoup plus ancien.
Absolument.
Et vous donnez d'ailleurs la signification, c'est des significations qui sont un petit peu bizarres, je crois, que Jérusalem, ça veut dire la ville de la paix ou quelque chose comme ça.
Hein. Mais on arrive toujours, si vous voulez, à des choses assez évidentes aussi. Hein. Je pense, par exemple, dans un autre registre, là, je saute un peu sur les noms de personnes, avec Vercingétorix, là aussi, tout le monde n'est pas d'accord, mais apparemment, ça veut dire le chef des tribus. Bon, la ville renvoie toujours, le nom de la ville, le nom de l'homme très ancien, renvoie toujours à quelque chose d'assez évident, d'un peu symbolique, mais qui ne trahit aucun secret.
Oui.
C'est la ville des villes, oui. C'est la ville du Sud, comme les noms de fleuves, tout simplement, en général, désignent l'eau.
Ah oui,
l'eau rapide, l'eau lente, mais une eau, la montagne veut dire, les Alpes veulent dire la montagne.
Ça c'est très frappant, hein. Vous avez Rhône veut dire le fleuve, Rhin veut dire le fleuve aussi,
oui.
En citez d'autres.
Vous avez là tous les fleuves en A.
Les Alpes, c'est Alpes, ça veut dire la montagne, simplement. Donc au fond, c'est quand même lié ça, le fait qu'on dise la montagne, Alpes, c'est au fait que les gens vivent dans un domaine très petit,
voilà.
Et ils croient qu'il n'y a qu'une montagne.
Oui. Donc c'est leur repère dans leur territoire.
C'est ça. Ouais.
Ils ne connaissent pas d'autres montagnes. Ils n'ont jamais vu les Vosges, évidemment. Ouais. Ni le Jura, ni les Cévennes.
Ouais. Et l'Olympe, c'est la montagne aussi.
C'est la montagne. Mais... ce sont tous des noms miroirs qui désignent des évidences. On est très déçus
lorsqu'on
regarde.
Donc ils sont des noms communs au départ, presque.
Tout à fait. Hein? Mais ce sont des noms forgés dans une autre langue que la nôtre. Donc on pense qu'ils vont raconter... D'ailleurs... bien souvent, on a tendance à imaginer que tous ces noms propres vont vous raconter une histoire, alors qu'ils n'ont désigné, ils n'ont contenu que quelque chose de très simple, de simplissime, qui était parlant à toutes les oreilles de ceux qui pouvaient l'entendre au départ.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous en citez un autre aussi. Qu'est-ce que c'est? Kilimandjaro, oui, c'est encore la montagne. La montagne avec le froid.
Oui.
La montagne et les
déserts. La montagne avec les neiges éternelles, quoi.
Oui, c'est ça.
En général, le nom veut dire ce que l'on voit, désigne ce que l'on voit.
Ouais. Le Sahara, c'est l'étendue jaune.
L'étendue jaune, tout simplement.
C'est-à-dire, c'est comme si on faisait le sable, quoi.
Oui.
Alors, ça, c'est quand même très, très étonnant. Mais c'est aussi. Ça recoupe aussi un autre.
Et vous savez, monsieur Leroux, c'était l'homme aux cheveux roux.
C'est ça.
C'est ce qu'on voit.
Oui, mais alors là, nous allons arriver à ça plus tard. Parce que
oui, d'accord, mais je veux dire que tous ces noms-là ont été forgés comme ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée qu'on est toujours le centre du monde? C'est-à-dire, vous savez que les Esquimaux, les Inuits plutôt, ça veut dire l'homme. Ça ne veut pas dire les Inuits, c'est la même chose. C'est-à-dire que et Jérusalem, c'est le nombril du monde, etc. Et chaque population, surtout dans ces lieux, dans ces époques, où il n'y avait pas beaucoup de communication quand même, chacun pensait qu'il était le macrocosme.
Alors, on ne vivait pas à l'échelle planétaire, c'est ça.
Oui, c'est ça. Ouais. Bien, alors ça c'est donc pour les noms. Il y a beaucoup d'autres problèmes que vous évoquez à propos du nom des villes. Mais il faut dire que c'est impressionnant le nombre aussi de noms de villes, hein, de noms de lieux.
Il y a les noms de villes, et puis il y a, dans le registre des noms de lieux, vous avez tous les noms de hameaux, de lieux-dits, de parcelles. Tout lieu a son nom sur le cadastre.
Et puis
ensuite, il y a eu les noms de rues, puis vous avez même maintenant de nouvelles dénominations, sur lesquelles je me suis un petit peu penché, moi qui m'ont beaucoup amusé, des noms qu'on va donner à des résidences. Déjà, le concept de la résidence est une opération, enfin, est un concept assez moderne en termes de marketing, etc. Enfin, on voit des soucis tout à fait nouveaux à ce niveau-là. Alors, les noms de résidence, les noms de maison de retraite, etc., qui, là, il y a une recherche. Ils ne veulent plus dire ce qu'ils devraient dire. La maison de retraite, ce sera rarement la maison des vieux.
Oui.
Mais ça sera des métaphores valorisantes, flatteuses, etc. L'âge d'or, les hespérides, et
vous avez
l'imagination.
Vous avez des tours effarantes dans certains HLM, c'est opale, émeraude, diamant, ou je ne sais quoi.
Il faut valoriser. Et en valorisant le lieu, on valorise l'adresse, on valorise la carte de visite, on valorise ceux qui y habitent.
Bien, et puis alors, il y a un autre nom de ville, c'est Vesoul, dont Jacques Brel
a chanter
le roman.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur. Les flonflons de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, caille, caille. Le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon.
Jean-Louis Bocarnot, Laissez parler les noms, les noms de lieux, les prénoms, les noms de famille, les noms de marques et d'autres du reste, est publié chez Jean-Claude Lattès, où nous avait dit un certain nombre de choses sur les noms de villes, les plus anciennes, etc., les plus anciens noms de villes. Mais on va rester un tout petit instant sur les noms de villes, parce que il me semble que déjà, on peut s'apercevoir, dans le travail que vous faites sur les noms de villes, combien c'est compliqué, parce que ces noms de villes, ils sont beaucoup transformés au fil des siècles, au fil de l'histoire.
Plusieurs générations,
oui,
de noms de lieux.
Oui.
Et il n'est pas toujours facile de savoir à quelle génération appartient le nom en question. On a encore aujourd'hui dans notre corpus toponymique, c'est-à-dire notre capitale de noms de lieux en France, des noms qui sont nés, qui se sont dégagés avant la civilisation gauloise, avant la civilisation celtique, qu'on appelle des noms liguriens ou pré-indo-européens, etc. Vous avez des noms gaulois, vous avez des noms gallo-romains, vous avez des noms francs, des noms vikings aussi. Les vikings n'ont pas laissé grand-chose en matière de noms de famille, parce qu'ils sont arrivés trop tôt, avant que les noms de famille n'apparaissent, mais ils ont laissé des noms de lieux, hein, comme les Cricbeuf, etc. Et puis après, vous avez des tas de noms de lieux nés au Moyen-Âge, nés à la Renaissance, qui à chaque fois appartiennent à des registres ou des typologies différentes.
Des typologies différentes, et puis il y a parfois une fausse origine, comme il y a des faux amis dans les langues étrangères, il y a des faux amis, là aussi il y a des faux amis. Par exemple, vous citez, ça arrive souvent dans votre livre, vous citez une ville qui s'appelle La Morte en Isère.
Oui.
Alors on imagine que c'est
là funéraire. Où l'ancêtre était mort.
Pas du tout, oui. C'est mort, ça veut dire, je crois, une petite monticule ou quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, tout simplement.
Oui. Hein.
Mais vous avez beaucoup, à Vertus, il n'y a pas de vertu ou de gens vertus à vertu dans le dans
là,
la Marne.
Là, il faut pas dire ça comme ça. Hein.
Attends, non, ça n'est pas.
Il y en a alors, peut-être un.
Il y en a plein. Il y en a plein. Mais ça n'est pas parce qu'il y en a eu que le village s'appelle Vertu. Merci de corriger. Sinon, je vais avoir une pétition des habitants de Vertu. Vous avez bien raison. Et des habitantes de Vertu. Donc, et là, ça vient tout simplement d'un ancien Virotoutex qui était un dieu gaulois. Vous avez plein de noms comme ça. Cricbeuf. Je parlais tout à l'heure des noms vikings. Il n'y a jamais eu de bœuf à Cricbeuf, et jamais eu de cric non plus. Le bœuf norrois, parce qu'on ne parle pas de nom viking, on parle de nom norrois. Mmh. Le bœuf norrois désigne simplement un abri, en général un abri de pierre, très primitif. Et le cric vient de kirk, selon les langues qui désignent l'église. Donc c'est tout simplement l'abri près de l'église.
Oui, mais en vous écoutant parler, je me dis que quand même, je suppose que vous ne connaissez pas le norrois, hein,
non,
mais vous
non.
avez quand même
des
capacités de pouvoir comprendre un certain nombre de mots norrois, allemands, etc.
Vous savez, en matière de cette recherche, je fais beaucoup de compilations et je consulte beaucoup de grands classiques. Et au fil des années, je commence à assimiler un minimum de base, forcément.
Non, je dis ça parce que c'est très important, il me semble, de savoir. Pardon ?
Je ne saurais pas comprendre le norrois,
oui,
ni parler,
sûr,
ni écrire.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui vous contrediraient si vous faites un faux sens, hein, de toute façon.
Je pense.
Non, ce que je veux dire, c'est que nous ne rendons pas compte, nous, combien un certain nombre de noms de lieux... En vérité, ce sont des noms qui sont allemands, qui sont norrois, comme vous dites, qui peuvent être italiens, espagnols ou
qui
autres.
Qui peuvent être de Languedoc, etc.
Ou de Languedoc,
et puis souvent,
etc.
Vous avez le même mot avec des terminaisons différentes. Mm. Vous avez les cours qui deviennent des hofs en Alsace. Vous avez les terminaisons en iacum ou iacus des anciennes villas gallo-romaines qui vont donner des IE, des terminaisons en IES dans le nord de la France. Le Martignacum Villa, qui est la villa d'un certain Martin ou d'un certain Martinus, va donner des Martini IES dans le nord, des Martini GNY dans le centre, des Martiniers plutôt dans la région du Maine, des Martignac, les AC très 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 nombreux dans tout le sud, voire des terminaisons en Ange, en Moselle, en Lorraine, des terminaisons en Hol, en Auvergne, enfin bon, vous avez...
Oui, avec là aussi des pièges, parce que vous signalez qu'en Alsace, il y a une ville au moins, et je crois que c'est la seule, qui est là. Une origine latine, c'est Colmar, hein,
voilà.
Qui veut dire Colombarium.
Qui vient de Colombarium, alors que la plupart des noms de lieux de ces régions-là sont quand même directement, majoritairement directement issus des langues germaniques.
Toujours en ce qui concerne les noms de villes, il y a aussi ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans les noms de personnes. Il y a aussi des villes qui se sont amputées d'une partie de leur nom parce que elle n'aimait pas s'appeler. Par exemple, La Chapelle Moche.
Ah, La Chapelle Moche qui est devenue La Chapelle quelque chose d'autre parce que Moche qui n'avait rien à voir
d'Andenne.
La Chapelle d'Andenne. Oui. Moche qui n'avait rien à voir avec l'adjectif moche a été jugé. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, forcément, on est très sensible et la communication qui pénètre partout fait que certaines villes, certaines communes souffrent parfois de leur nom.
Puis on n'a pas le rapport avec le même rapport que Rabelais avec le langage, avec une partie du langage.
Et on n'a pas le même rapport non plus avec les noms propres. On a besoin, enfin, je dirais qu'il y a une certaine utilisation qui est faite du nom propre aujourd'hui, qui fait que le rapport est différent. À la fois, on n'hésitera pas à changer le nom d'une ville parce qu'on trouve qu'il est peu porteur, enfin mal vendeur, difficile à vendre. Mais d'un autre côté, on essaiera absolument. Vous avez beaucoup, ça c'est très à la mode actuellement. Vous avez beaucoup de petites communes dont on ne connaît pas le nom des habitants parce que
oui, c'est
Saint-Symphorien de quelque chose d'autre.
Oui.
Et personne ne s'est jamais posé la question autrefois.
Oui.
Et aujourd'hui, on organise des référendums pour que les habitants aient eux aussi un nom. Ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais quelque part, dans les bulletins municipaux, on aime bien employer le mot juste et on souffre quelque part d'un complexe du fait que les habitants ne sont pas nommés.
Et vous avez aussi, parmi les villes qui ont changé de nom ou qui ont perdu une partie de leur nom, vous citez Tremblay sans culotte, c'est assez rigolo, qui est devenu, je ne sais pas quoi, Tremblay tout court, je crois. Non,
oui.
Tremblay les Gonesses.
Tout simplement. Je sais, oui, peut-être.
Oui, je crois.
Oui, mais bon, vous avez des noms de lieux, vous parlez de culottes, là vous avez des noms de lieux. De petits lieux, hein, qui sont souvent très très curieux. Et il y a un lieu qui s'appelle la culotte qui sèche dans les Yvelines.
La culotte, quoi ?
Qui sèche. Bon, alors vraisemblablement, c'est un nom de lieu récent. Récent, qui peut être du début du 20e.
Comment s'appellent les gens qui sont nés dans ce pays-là ?
Mais ce n'est pas une commune.
C'est pas une commune. Bon.
Donc, je ne sais pas.
Il y a aussi Saint-Frambois-sur-Pisse, il y a la Pisse, tout ça a changé.
La Pisse, c'est le petit ruisseau.
C'est le petit ruisseau,
on appelle une pissotte dans beaucoup de régions, ou une pissette.
Ouais. Non, je cite ces exemples parce que dans ce livre, il y a un aspect qui est assez amusant. Vous plaisez à le souligner avec des petits tableaux. Ce sont des choses très drôles dans les noms.
Alors bon,
il y a beaucoup d'humour dans le nom.
Mais involontairement, peut-être. Mais
involontairement.
Comme j'aime bien faire des bouquins...
Est-ce que c'est involontairement ?
Oui. Oui, parce que moi j'aime faire des livres à plusieurs vitesses, donc je veux toujours un petit côté distrayant. Et c'est vrai que là, j'ai une matière en or. Parce que bon, vous parlez de Saint-Frambois-sur-Pisse, ou d'un lieu qui s'appelle Montcuq, que tout le monde, souvent, dont tout le monde a entendu parler, ou d'un tas d'autres noms de lieux, ou de certaines rues. Il y a des rues comme la rue Poil-au-Con, la rue Bombe-Cu, qui était une rue, je ne sais plus, à Villeneuve, Villeneuve-sur-Lot, ou dans cette région-là, ou qui était très en pente, et comme on l'apprenait souvent, en se baissant un petit peu, en arrivant un peu voûté, on bombait le cul. Donc vous avez des tas de petites choses qui sont très drôles, qui parfois ne l'étaient pas à l'origine, comme Saint-Frambois-sur-Pisse, qui était vraiment quelque chose de tout à fait banal et considéré comme banal, qui soit l'était vraiment, parce que la culotte qui sèche, on savait très bien pourquoi on l'appelait comme ça, ou bien qui parfois le sont devenus par déformation. Vous avez le quartier des Trois Coucous à Toulouse, qui venait d'une enseigne d'autrefois, qui a évolué et qui s'est transformé en quartier des Trois Cocus.
Oui. Ah oui, c'est ça, c'est dans l'autre sens alors.
Dans un autre sens, on ne sait pas pourquoi, mais qui ne l'étaient pas et qui sont devenus un petit peu curieux. De la même façon, dans les noms de famille, vous avez énormément de noms de famille qui à l'origine étaient tout à fait banals et de façon inoffensive, et qui aujourd'hui ont été reçus comme des noms très difficiles à porter. Des noms comme Petite Queue, qui était le petit cuisinier, Sèche-Pine, qui était le buisson épineux et sec, j'en passe, et de bien meilleurs, aujourd'hui vont être considérés comme difficiles à porter, comme les familles Anus qui viennent de Johannus, diminutif de Jean, dont on va essayer souvent de se départir en faisant une action en justice, enfin une demande de rectification de nom, de changement de nom auprès de la chancellerie, et qui autrefois n'aurait jamais fait sourire. Puis de toute façon, c'est relatif. Je pense par exemple à une dame Coquin qui, à la fin du 19e siècle, a voulu changer de nom. Parce que Coquin était l'injure suprême. C'était l'injure suprême d'autrefois. Tu es un coquin, vous êtes un coquin. Vraiment, c'était celui qui était du gibier de potence. Et aujourd'hui, bon, il a un sens beaucoup plus édulcoré. Ouais. Mais cette dame coquin en souffrait beaucoup vers 1899 ou 1902, je ne sais plus, et l'année exacte. Et elle a demandé à changer de nom et elle a récupéré son nom de jeune fille ou le nom de sa mère, c'est pas, ou quelque chose comme ça, est devenue Madame Momo.
Madame Momo.
Oui, et maintenant, les enfants, à la quatrième génération, troisième génération, il y a quelques temps, sont repassés devant la chancellerie et n'ont pas repris le nom de coquin non plus, mais on demandait à changer de nom contre un autre.
Ce sont des vagabonds. Des vagabonds.
Et la pauvre dame ne pouvait pas imaginer. On ne peut pas prévoir l'avenir de certains mots.
Ouais. Et quand je disais que vous avez quand même un regard malicieux, ça n'était pas seulement à cela que je songeais, parce que là, c'est simplement votre travail de généalogiste que vous accomplissez, c'est que vous donnez l'impression que vous vous amusez à lire les journaux et à relever les noms, les coïncidences entre un nom et une action, un nom et un métier. Par exemple, je suppose un gendarme qui s'appellerait Pandore ou des choses comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup.
Le gendarme conscience arrête le voleur très con. Il y en a beaucoup, mais alors, soit je les collectionne, oh, il y a le canard enchaîné qui, par ses lecteurs, en donne beaucoup, et puis de temps en temps, maintenant, et de plus en plus, on m'en envoie.
On vous en envoie, oui.
Hey, lorsqu'on trouve des perles...
Mais c'est pour ça, tout à l'heure, je vais vous demander si vous croyez que c'est vraiment du hasard, ou bien si, est-ce qu'il n'y a pas, puisque au départ...
Prédestination.
Oui, non, pas prédestination. Peut-être prédestination d'ailleurs, bien entendu, mais parce que au départ, quand même, le nom de famille, on va y arriver dans la fin de l'émission, le nom de famille désigne un métier, par exemple.
Ah, pas toujours, non.
Parfois,
oui, parfois.
D'autrefois, une particularité physique, d'autrefois, je ne sais quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une imprégnation comme ça? À travers les siècles, même.
Oui, c'est une question qu'on peut se poser et que je me pose, mais c'est à d'autres à apporter la réponse.
En tout cas, on ne peut pas apporter la réponse, non, c'est une interrogation.
Non, c'est à d'autres à travailler cette question. Mais c'est vrai qu'on voit parfois des personnes qui peuvent être un petit peu influencées par le nom, tout au moins le sens apparent de
leur
nom.
C'est sûr, c'est sûr.
Et soit prendre un métier en conséquence, soit, bon, vous avez, ben, je ne sais pas, des boulangers qui sont boulangers, tout simplement.
Ici, vous avez un boulanger qui s'appelle Pain, par exemple, peut-être.
Ou monsieur à poil qui habite rue des Bains, à Saint-Aubin-sur-Mer. Ou monsieur Salpeter qui est employé au gaz.
Eh bien, Mouloudji, qui aime bien les rues de Paris, va nous aider dans votre recherche.
De Paris chantent des chansons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons. Les rues de Paris chantent des chansons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. Dans la rue des Vertus, c'est là qu'il l'a connue. Au jardin des Tuileries, tous deux se sont souri. Près du pont de l'Alma, il l'a prise par le bras. Sur les quais de la Seine, il lui a dit « Je t'aime ». Ils étaient serrés sous la nuit, elle si douce et si jolie. Les rues de Paris chantent des chansons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons.
Jean-Louis Beaucarneau, il nous parle des noms, laisser parler les noms, c'est son dernier livre publié chez Lattès. Nous avons eu un petit peu le nom de ville, le nom de Dieu, etc. Il y a beaucoup d'autres rapides, mais il faut arriver tout de même au nom de famille et passer d'abord par, au fond, je ne sais pas comment on peut dire, c'est pas le prénom, par le nom unique.
Mais il n'était pas prénom, parce qu'il ne précédait rien.
C'était oui, c'est ça. Donc c'était le nom.
C'était le nom de personne, dirons-nous. C'était le nom que l'on donnait, que portaient les personnes, qui portaient un nom unique, que l'on
non, a... Non transmissible, c'est ça qui est important.
Non transmissible, voilà. Personnel et non transmissible. Qui est devenu, dans nos sociétés judéo-chrétiennes, le nom de baptême. enfin dans les sociétés chrétiennes, le nom de baptême. Parce que très vite, on a fait en sorte qu'on ne puisse choisir pour ce nom qu'un nom porté et, comment dirais-je, labellisé par un saint. Donc il est devenu le nom de baptême, et nous en étions là vers les 10e, 11e siècle, lorsque spontanément va se dégager petit à petit le nom de famille, le surnom qui va devenir un nom de famille.
C'est quoi? C'est une densité démographique, explique
absolument.
Ça
absolument. Ça naît en Italie du Nord, ça part en Italie du Nord vers la fin du 10e siècle. On voit dans cette grande période de paix, de croissance économique, et donc de croissance de boom démographique, comme on dirait aujourd'hui, ben, on assiste au sein de chaque communauté très étroite dans laquelle vivent nos ancêtres, les seigneuries, les paroisses, etc., à une trop grande avalanche, une trop grande homonymie entre les Pierre, les Jean, les Guillaume, entre certains prénoms les plus courants. Donc, bien, spontanément, il n'y a jamais eu de loi disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre un surnom qui va devenir nom de famille. Non. Spontanément, pour les besoins de la cause, on a pris l'habitude d'ajouter un surnom.
Alors, comment ça se passait avant le 12e siècle comment ça se passait? Il y a un bébé qui naît. C'est les parents qui lui donnent un nom, c'est la communauté qui va dire « Oh, celui-là, il a le nez tordu, on va l'appeler le nez tordu ».
En surnom.
Ah oui, en surnom, oui.
Oui. Non, les parents ne donnent rien. L'enfant, enfin, ou la personne concernée ne choisit surtout pas. Sinon, on s'appellerait tous le beau.
Oui.
Non, les voisins, le prochain, la communauté...
C'est le village, la rumeur.
Voilà, la rumeur lui donne un surnom, voire parfois plusieurs surnoms. Mais exactement comme encore aujourd'hui, les enfants se donnent des surnoms dans les cours de récréation,
oui.
Autrefois les militaires dans les chambrées, ou oui. Au sein des villages, on
mais
a encore des surnoms.
Et ça devient la manière dont il est nommé dans le village, ça.
Ça devient la manière dont il est nommé par ses proches, oui.
Par ses proches.
Dans son entourage. Hein, pas familial, mais dans
mais
son entourage.
Ce ne sont pas seulement des surnoms, ça peut être un nom de métier, non?
Ah ben, tout est surnom.
Les prévôts.
Tout
oui.
est surnom. Le surnom, c'est le sobre nom, c'est-à-dire le nom qui suit le nom de baptême. Donc, à partir de là, on a toute une gamme de possibilités. On peut donner tout simplement le nom du père. Pierre-Michel veut dire Pierre, fils de Michel. On peut donner tout simplement le nom du métier. Pierre Fournier, c'était celui qui était le fournier, qui enfournait dans le four banal du Seigneur les tourtes de pain, etc. On peut donner un surnom lié au physique. Pierre le Grand, c'est le plus grand des pierres du village ou le plus grand des habitants du village. On peut donner souvent... Alors, vous avez plusieurs types de dénominations, c'est vrai. Parfois, ça va être un surnom très, très anecdotique. On va appeler un tel, je ne sais pas, Persepus, on ne sait plus très bien pourquoi, mais souvent, sont des noms.
Il y a Loupendu.
Loupendu, c'est celui qui habite... Alors là, on va tomber dans les noms de lieux. C'est celui qui habite un lieu où l'on pendait les loups. On avait une dépouille de loup qu'on laissait bien sanguinolente, une charogne que l'on pendait haut et court pour éloigner les autres loups. Mais bien souvent, ces noms de lieux, disons que... En général, ça dépend des régions. Dans l'Est de la France, c'est plutôt les prénoms qui dominent. En Lorraine, ce seront les Nicolas, d'où les Colin, les Collignon, les Henri, les Laurent, les Pierre, les Jacques, les Jeannot, etc. Les Janson pour Jean. Et puis, en Normandie, ça va être plutôt des noms de métiers. En Bretagne, ça va être souvent des noms liés, plutôt des noms liés au physique. Hein. C'est une petite majorité, en général, qui se dégage.
En Bretagne, vous dites des noms
souvent des surnoms liés au physique.
Ah oui.
Souvent. Et puis, plus on va vers le sud-ouest, plus on va trouver des noms de lieux qui se généralisent dans les pays d'habitat dispersés. Parce que vous avez la population qui vit en agglomération, la population agglomérée, sur laquelle on peut avoir prise et pour lesquelles on peut donner des surnoms, fabriquer des surnoms, forger des surnoms qui leur collent bien à la peau, qui vont relater une petite anecdote, etc., ou un trait du caractère ou de la personnalité. Tous les autres qui vivent dans des hameaux ou des fermes isolées, excentrées, on les connaît mal et on n'a pas pris sur eux. Et Pierre qui vient d'un hameau qui s'appelle la Meloise, ben ça va être Pierre de la Meloise, tout simplement Pierre venu de la Meloise. Et à ce moment-là, d'ailleurs, tous les habitants, toutes les familles du hameau reçoivent de fait le même nom générique sans être forcément en parenté très proche.
Oui.
Et ça, vous avez des régions comme la Corrèze, Périgord, où c'est 99% des noms qui sont des noms de lieux.
Oui. Oui, mais alors après, il faut les différencier quand même entre tous ces... Il faut leur ajouter un surnom encore.
Non, non, parce qu'ils sont deux ou trois familles dans le lieu. Ça suffit.
Oui, c'est ça.
Mais alors, vous avez le rajouti du surnom qui arrive parfois à l'époque de la Renaissance dans les régions montagneuses. Parce qu'il y a eu quelques noms au départ dans la communauté qui se sont développés, qui ont été assez prolifiques et qui n'ont pas beaucoup migré. On est resté très, très, très sur le village, la seigneurie, la paroisse, etc. encore plus qu'ailleurs. Et là, les Tissot ou les Lambert sont devenus beaucoup trop nombreux dans cette communauté, donc ils vont devenir Lambert Coucault, Lambert Amtaz, etc. Là, j'ai travaillé il y a peu de temps sur un nom, le nom de Chevassu, qui est un nom du massif jurassien. Dans la commune d'origine, il y a eu une bonne vingtaine de souches avec des surnoms, selon les branches, selon les lignées, qui ont trait aussi, soit au lieu habité, soit au nom de la femme qu'ils avaient épousée, soit à une particularité quelconque, et qui vont se transmettre. Mais quand on en voit 20 aujourd'hui, ça veut dire qu'il y en a peut-être eu largement plus du double à l'origine.
Mais Jean-Louis Bocardo, bien, là on comprend pour ce qui est de la France, et vous dites que c'est dans le monde entier, semble-t-il, et que les premiers changements viennent de Mongolie, je crois. Hein, bien. Mais avant tout ça, chez les Latins, on nous parle de Jules César, on nous parle de gens qui ont des noms,
qui ont deux noms même.
Lucius Evola,
C'est Caius Julius Caesar.
Oui, trois noms.
Avec le praenomen, l'équivalent de notre prénom d'aujourd'hui, le nom personnel, le nom de famille et le nom de branche. Mais le système romain est très 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 élaboré, effectivement, et est le seul de ce type. Il a eu cours le temps de la civilisation romaine. Après, il est très vite tombé en désuétude dans les anciens pays, enfin dans les pays de l'ancien Empire romain.
Oui, donc tout de même en Gaule, ça a dû durer jusqu'au 4e siècle à peu près.
Oui, mais entre le 4e siècle et le 12e siècle, il y a 8 siècles, 800 ans, c'est très très long. On oublie tout.
Oui, bien.
On oublie tout en 800 ans. En moins, puisque... Alors, il y a toujours le problème des explications que je donne en disant « Ah, monsieur Girard, vous portez un nom de famille qui est d'origine germanique. » Alors, je présente d'ailleurs jamais comme ça. Vous avez pour nom de famille un ancien nom de baptême qui, lui, était d'origine germanique. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes, vous, d'origine germanique. Parce que lorsque les noms se sont constitués, donc se sont formés comme surnoms vers les 11e, 12e siècle, puis ensuite se sont très vite fixés et transmis héréditairement, ces noms, bien souvent, étaient simplement la reprise d'un nom de baptême, le nom de baptême de la personne en question, ou de son père. Jean-Michel, voulant dire, je disais tout à l'heure, Jean-fils de Michel. Mais à la place de Jean-Michel, on peut avoir un petit diminutif comme Jean-Michelot. Hein, c'est la même chose, ou Jean-Michaud. Michelot, c'est Michel. Mais on peut avoir eu un nom d'origine latine, Jean-Martin. Martin, ça vient de Martinus, venu du dieu Mars. C'est évident que ça n'a pas de rapport. Vous avez Girard, qui en langue germanique était un nom de baptême d'origine germanique, étymologiquement parlant, qui avait une signification en langue germanique. Mais tout ça n'induit aucune conséquence quant à des origines plus lointaines, en ce sens que vous appelez aujourd'hui un enfant Pierre, Jonathan ou Jérémy ou Patrick, il ne va pas être plus pour autant latin, français, irlandais ou américain. Vous aviez un enfant prénommé ou baptisé Pierre, Girard ou Jean au 12e ou au 11e siècle, qui portait un prénom tiré d'un corpus germanique, d'un corpus latin ou d'un corpus hébreu, il n'en avait pas pour autant des racines dans cette civilisation-là. Comme, si vous voulez, quelqu'un qu'on prénomme César aujourd'hui, César, ça vient de Caesar, l'opération césarienne, vous prénommez un enfant César, il n'est pas né pour autant par césarienne. Donc, oui. Il faut toujours bien se rendre compte du décalage. Et au XIe siècle, lorsque ces surnoms naissent, souvent naissent tout simplement de noms de baptême, de prénoms, nos ancêtres donnent ces prénoms sans avoir la moindre idée de leur origine étymologique, linguistique et de quelle civilisation ils proviennent. Tout ça date de 5 siècles. En 5 siècles, on oublie tout aussi.
Bernard aussi est allemand, je crois. Hein,
Bernard. Oui, bien sûr, c'est l'ours.
Moi, jusqu'à ce que j'ai appris ça dans votre livre, je croyais que Bernard était un nom tout à fait français.
C'est français.
C'est français, oui.
Mais... Moi, je le dis, il est français. Après, d'où viennent les racines? C'est comme si vous me disiez Monsieur Dumont. Ben oui, ça vient de la montagne, ça vient d'un lieu qui s'appelle Le Mont, hein, qui désignait une petite montagne. Après, vous me direz, Mons lui-même a une étymologie. Mons, c'est une étymologie latine qui désignait la montagne. J'en conclurai pas pour autant que M. Dumont est d'origine latine.
Ouais. Mais ce qui est compliqué tout de même dans votre travail, c'est que tous ces noms se déforment et que parfois on ne retrouve pas, ils glissent entre les mains. Vous en citez, vous avez des cartes hein, dans le livre pour montrer les flexions, les changements du même nom.
Voilà.
Par exemple, je crois qu'il y a une carte sur Cocu, hein, et de Cocu, ça prend toutes sortes de formes.
Ça prend pas, ça forme. Parallèlement, concomitamment, en ce sens que la France, en France, on ne parle pas français. Autrefois, on parle une mosaïque. C'est une mosaïque de parler, de dialectes et de langues différentes. Et au fil de ces langues, selon les langues, selon les régions, le mot, enfin la chose est désignée par des mots différents. La chèvre est au nord, la cabe est au sud. Et à propos de chèvre, rien que dans le secteur de Châteauroux, des historiens de la langue comme Henriette Walter ont dû recenser une bonne vingtaine de dénominations différentes dans le seul département de l'Indre.
Oui, mais alors c'est une difficulté pour vous, mais en même temps c'est un fil quand même, c'est un,
alors,
c'est
à condition, un indice. Oui, non, mais à condition de connaître le lieu d'origine. Oui. Pour bien travailler sur un nom de famille, et aujourd'hui, on a fait de très très gros progrès, enfin, on est dans de bien meilleures conditions de travail qu'il y a une vingtaine d'années, ou plus encore du temps de Dosa, qui vraiment a posé tous les jalons.
Dosa a été un des premiers grands. Hein.
Oui, ça a été le fondateur, qui a commis beaucoup d'erreurs, mais je l'en décharge tout de suite, parce qu'il n'avait pas, il ne disposait pas à cette époque d'instruments, comme on peut en avoir aujourd'hui depuis quelques dizaines d'années, qui lui aurait permis d'être très efficace. Pour être très efficace, il faut mettre le nom que l'on étudie en rapport avec le terroir dans lequel il est né, pour voir par rapport au glossaire et aux langues parlées dans ce terroir, quelle clé on va pouvoir lui trouver éventuellement. La clé n'apportant pas toujours le sens du nom, mais de disant avec quel mot, à partir de quel mot le nom a été formé. A été forgé. Donc, notre Albert Dosa, qui est quelqu'un d'éminemment respectable, a travaillé dans les années 30, et lorsqu'il trouvait un nom, n'arrivait pas à le localiser. Et parfois, alors, il allait partir à travers les annuaires téléphoniques, qui ne donnaient pas lieu à un annuaire téléphonique alphabétique national, comme on en a aujourd'hui, sous forme, enfin, informatisée. Donc, il allait à tâtons, et puis il allait trouver un représentant de la famille à Tours. Et il allait en conclure que c'était peut-être d'origine tourangelle. Et puis, pof, eh ben, il se plantait, comme on dit couramment aujourd'hui, parce qu'en plus, à cette époque-là, le téléphone n'était pas démocratisé comme il l'est de nos jours. Et souvent, on ne trouvait sur l'annuaire téléphonique qu'un ou deux porteurs d'un nom, qui bien souvent n'étaient pas dans les régions d'origine, parce que n'avaient le téléphone que des gens qui avaient accédé